docteur.
Enchanté.
Docteur.
Trouve-moi un toubib pour la tête. Genre psychiatre, quoi.
Tu veux dire un truc psychique, genre paranormal, quoi, en gros.
Ah ben on a effectivement un ensemble de sons, un ensemble d'atmosphères, hein. C'est le mélange à la fois du Parisien qui passe par là et le touriste qui découvre effectivement des lieux mythiques tout de même et qui ont été popularisés par le cinéma. Enfin, le promeneur, il découvre à la fois la spiritualité là-haut et puis effectivement les commerces avec effectivement ses couleurs et ses stimulations diverses.
This place, Montmartre.
Un psy dans le 18e arrondissement, Manuel.
Et les stimulations diverses, comme nous dit Laurent Beck, qui est professeur de psychologie sociale à l'université de Grenoble. Il a accepté d'appliquer sa psychologie du bien du mal à cet endroit si particulier et si touristique du quartier de Montmartre. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas ce coin-là. D'un côté, vous avez perché sur la butte, le majestueux Sacré-Cœur. Et en bas, en contrebas, on va dire, Pigalle, quartier chaud de la capitale, avec ses bars, ses sex-shops, qui symbolisent la débauche pour les uns et l'extase pour les autres. Alors, il y a un circuit comme ça, touristique, qui permet de passer à l'autre de manière assez décontractée et assez déculpabilisante. C'est un formidable terrain d'étude, en tout cas, sur le sens que chacun donne aux notions de moralité, d'immoralité ou encore d'amoralité.
À travers l'histoire, on a eu tendance à associer, par exemple, le haut et le bas, ou la droite et la gauche, d'ailleurs, à des valeurs. Ainsi, la plupart du temps, dans l'histoire, eh bien, les gauchers sont stigmatisés parce qu'ils sont effectivement, ils symbolisent la déviance, ils symbolisent l'écart par rapport à la droiture, précisément. D'ailleurs, on raconte que certains saints chrétiens s'écartaient du sein gauche de leur mère, précisément, dès leur naissance. C'était un signe de recherche de la pureté.
Le haut et le bas, c'est exactement ça, c'est le Sacré-Cœur, le bien, hein, en caricaturant. Et puis en bas de Montmartre, Pigalle, avec les sex-shops, les bars sombres. Comment on se repère entre le bien et le mal ici pour vous ?
Alors, il y a évidemment l'idée selon laquelle la présence imaginaire, mais finalement très concrète, du divin, oblige l'individu à respecter les normes sociales. Dans une étude que je trouvais assez intéressante, on étudiait les comportements altruistes de personnes qui entraient ou qui sortaient d'une église. Alors, ils entraient à une heure de confession, c'était des catholiques, ou ils en sortaient. Les personnes qui ont été lavées de leurs péchés à l'intérieur de l'édifice religieux semblent finalement sortir et être moins altruistes par la suite, puisqu'effectivement, elles n'ont plus besoin de manifester leur disponibilité à autrui. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'on a tous en nous une part de bien et une part de mal ?
Il y a effectivement une capacité à ajuster son comportement aux attentes et à l'environnement. Et effectivement, on peut-être, dans certains cas, frôler, voire endosser une forme de duplicité, puisque nous jouons des rôles en fonction de certains contextes, parfois à notre insu.
Le masque qu'on va endosser, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, dans faire le bien ou faire le mal.
On a dans la pensée occidentale une idée qui est assez présente, déjà présente chez Platon dans son texte La République, selon laquelle, eh bien, finalement, lorsque nous sommes masqués ou bien invisibles, eh bien, le mal se déchaîne. C'est une idée qui est très pessimiste. Et les recherches contemporaines en psychologie sociale nous montrent que dans certaines situations, bien sûr, ceux qui souhaitent transgresser, eh bien, vont tirer parti d'un masque ou de la foule, par exemple, qui permet d'anonymiser et de responsabiliser. Mais nous repoussons peut-être parfois aussi des impulsions positives parce qu'effectivement, les normes nous obligent à certaines façons d'interagir. Je ne peux pas aller embrasser la dame que nous croisons parce qu'effectivement, les normes m'obligent à anticiper sa réaction. Si j'étais masqué, peut-être que je pourrais le faire. Peut-être qu'elle se prêterait à ce jeu. Et en tout cas, le masque peut, dans certains cas, perturber l'application des normes ordinaires dans un sens ou dans l'autre.
On va continuer en marchant, là. Et puis comme ça, on va se rapprocher d'un autre pôle. Donc juste le temps, en fait, de traverser, de faire 200 mètres, on se retrouve dans un autre univers, hein, Laurent Beg. Hein.
On passe d'aller à Confesse à autre chose. Effectivement, on a véritablement là un monument au plaisir hédoniste, en tout cas à une de ses formes, et qui, bien sûr, renvoie Bon, un cinéma X, effectivement, à droite, et puis un magasin de lingerie à gauche, qui renvoie effectivement à, je dirais, une image de la sociabilité de la société qui est bien sûr très très contrastée avec ce que l'on a peut-être quitté à l'instant, hein, dans l'espace de Montmartre. Sont-elles les mêmes personnes ?
Alors, elles sont les mêmes pour les touristes, ça, ils sont obligés de passer par là. Hein.
C'est effectivement intéressant de voir comment est-ce que le monde du sexe fait l'objet d'une forme de régulation, à la fois dans les devantures, mais également dans la conception et le comportement des passants, puisqu'effectivement, la manière dont les devantures sont appréhendées, regardées, est tout à fait distincte.
Regardez les enfants qui passent, là, les jeunes gens de 14 ans, ils regardent sans regarder. Hein.
C'est ça, jette un coup d'œil pour voir ce qu'il s'y passe, mais sans vraiment trop s'attarder.
Des gens qui sortent, des femmes d'ailleurs, hein. Des femmes, des hommes.
Oui, effectivement, une grande diversité de consommateurs du sexe.
Alors, il y a quoi sur cette façade de Love Store ? Un Père Noël, des reines.
C'est tout à fait charmant. Non, on a, je dirais, une sorte d'alliance assez, assez pittoresque. Le côté un peu, peut-être brutal, de ces néons rouges, sextoy, cuir latex. Les reines, effectivement, qui semblent incliner lassivement leur tête de droite à gauche. Je plaisante, en fait.
Ah, j'avais pas remarqué.
Et puis, le Père Noël de notre enfance, qui est un peu plus haut, avec ce regard bienveillant et ses cadeaux dans le traîneau. Enfin, on a une alliance, un peu, une sorte de chimère comme cela, qui peut laisser un peu pantois.
Il y a une thématique ludique en même temps.
Absolument. On a une mise en perspective et une association de choses qui semblent inhabituellement associées, avec voilà, peut-être une forme d'humour. Hein. Je reviens à ces reines qui semblent être au 7e ciel.
C'est un pataphysicien, votre type, là,
oui,
ou quoi?
Oui, il a l'imagination foisonnante.
Le Père Noël et la mère Maquerelle.
La mère Maquerelle, oui, c'est assez étonnant de voir ce mélange. Alors, je précise que le livre est sorti chez Odile Jacob et s'intitule « Psychologie du bien et du mal ». Laurent Beg qui nous explique aussi une chose intéressante sur cette régulation du bien et du mal qui pourrait être appuyée sur le réflexe de survie et puis l'instinct grégaire. Et ce qu'il montre aussi dans le livre, c'est que les gens qui souffrent de solitude ont une espérance de vie qui est moindre que ceux qui vivent en groupe et qui sont donc, qui sont donc dans des relations sociales et des échanges.